Bien, bon, on a un petit moment pour la discussion. Merci Michel pour ce panorama à 2 siècles et un peu plus.
À la hache, hein, vraiment.
Non, pas à la hache, les grandes étapes. Vous avez été bien rendu. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, d'abord, quand même, je trouve ça passionnant, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'effectivement, on ne connaît pas très bien. Mais moi, je me demandais si dans la période récente, cette coupure, enfin, que ça y ait eu un moment de rapprochement, si on n'est pas en train, à nouveau, de se réécarter sous plusieurs effets, notamment, enfin, d'abord, le désengagement enfin, de l'État, le recul de la protection sociale organisée par l'État, c'est pas vraiment par l'État, puisque c'est par l'État, donc qui redonne de la place à tout un à côté, occupé par les mutuelles et par les assurances, et puis sous l'effet aussi donc des règles européennes, prudentielles, etc., qui assimilent de plus en plus les mutuelles aux assurances, et finalement, maintenant, les mutuelles sont un peu le cheval de Troie des assurances dans la protection sociale. Et je trouve ça vraiment très dangereux. Et moi, alors c'est peut-être des vieux réflexes, je ne sais pas, de syndicalistes. mais je trouve que l'action des mutuelles est actuellement extrêmement dangereuse par rapport à la protection sociale. Donc, je me demande si on n'a pas dans un phénomène de la coupure qui se...
Je crois que c'est une question.
Comme vous voulez. Quelques questions ou...
Comme vous voulez.
L'important, c'est qu'à un moment donné...
Non, mais j'attendrai.
Je vois plein de mains se lever, peut-être on va faire un premier tour.
J'ai peut-être plusieurs questions ou interrogations, enfin au moins une, quoi. Bon, là, je remonte plus loin, sur la loi Le Chapelier.
Oui.
Tu disais que ça marque durablement l'histoire sociale, quoi.
Oui.
Alors, il me semble, hein, mais tu me rectifies, c'est peut-être une erreur, mais dans la loi Le Chapelier, il y a quelque chose de très important, c'est la loi Le Chapelier... ne veut pas du contrat, on va dire, collectif,
oui.
Elle veut simplement le contrat de gré à gré.
Oui.
C'est-à-dire, oui. En quelque sorte, on dirait le salarié face à son patron, quoi. Des choses qu'on va retrouver tout au long, il y a un peu un fil conducteur dans cette bataille entre le patronat et les salariés. Et puis évidemment, ça nous interroge... C'est la confirmation que c'est une révolution qui marque ses limites aussi en même temps. C'est-à-dire que la classe dominante de cette époque-là, c'est la bourgeoisie, hein, contre la noblesse et aussi contre l'Église, qui est, je veux dire, en quelque sorte, qui détient un très grand patrimoine dans le pays. Hein, je crois qu'ils détiennent peut-être plus du tiers des terres en France. Quoi. Et tout de suite, cette bourgeoisie, ce côté de classe qui détient les moyens de production, on va dire, parce que c'est comme un concept qu'on va retrouver par la suite, tout de suite, ils mettent la barrière et ils introduisent cette loi, la loi du Chapelier, où on ne peut pas avoir de contrat collectif, où il ne peut avoir que le contrat individuel. Et donc, à partir de là, ben, c'est l'interdiction de toute création de syndicats, puisque les syndicats, évidemment, sa valeur, c'est que pour pouvoir avoir des avancées, par exemple, sociales, ça ne passe que par, le collectif. Et ça ne peut pas passer par l'individuel. Voilà, moi, c'est ça que je voulais dire. Ben, si j'ai bonne mémoire, hein, parce que longtemps que j'ai peut-être vu ça, je ne sais pas si je suis assez précis.
Moi, je voulais revenir sur la lettre qui me semble clé. On a longtemps vécu dessus sur ce qui s'est passé en 1945, le programme du CNR, les entreprises de 1945. Tu as décrit en fait le mouvement ritualiste comme quelque chose qui était extrêmement faible à cette époque, et tu as dit pourquoi. Je m'interroge quand même là-dessus parce que ce qu'on a pu constater quand même, c'est que le système de la naissance de la sécurité sociale n'a pas. Abouti à un système de protection totale et que l'autre système, le système ancien, a coexisté. À côté de la sécurité sociale de base, on a une complémentaire, à côté on a une retraite complémentaire, etc. Ce qui semblerait quand même que, où il n'y a pas une volonté politique de passer à un système total, ou alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a, à mon avis, quand même une question de rapport de force et une existence encore de système mutualiste à côté de
je vais te répondre.
C'est comment ça fonctionne, la mutualité. Comment une espèce de fédération arrive à prendre des positions en fait, un petit peu, si on a depuis la guerre, là-dessus, les épisodes, ça, tout ça. Comment ça fonctionne, quel est, finalement, tu parlais de messieurs et tout ça, mais quel est leur idéologie maintenant, enfin, dans la période récente, dans la période ancienne, comment ils se déterminent par rapport à ça.
Ma question est, j'espère, pas trop anecdotique, mais un ami m'a montré un bouquin d'école, d'écolier, de 1831, écrit par une certaine École Mutuelle. Et il y avait des bouquins dans, un peu dans toutes les matières. Donc, comme c'est assez précis, je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. Est-ce qu'il y aurait des liens entre l'école, 1831, et la mutuelle, parce que ça me semble, ça m'a surpris.
Oui. C'est pas vraiment sur la mutuelle par rapport à la CGT avant la Première Guerre mondiale, quand elle a décidé de marcher avec l'État,
oui.
Prenant la main. Et vous dites que personne ne sait pourquoi. Est-ce que vous, dans vos recherches, vous avez peut-être copié des comptes bancaires de la CGT ou des comptes bancaires des syndicalistes?
D'accord.
Okay. Bon, la première vague.
Bon, le plus simple, c'est que je réponde dans l'ordre des questions. Et bon. Alors, si j'avais eu le temps, j'aurais dit que dans cette histoire, j'ai parlé de la mutualité du syndicalisme, mais moi j'ai toujours envie de parler d'autres acteurs qui sont d'État, fondamental, même si son rôle change, les compagnies d'assurance, l'Église et le patronat. Et dans toute cette histoire, on a des, comment dirais-je, comme au théâtre, il y a des pièces, mais les rôles ne sont jamais les mêmes. Les rôles ne sont, comment dirais-je, jamais les mêmes. Alors, ce qui est vrai, je réponds et à la question 1 et à la question 4, ce qui se passe actuellement, d'une part, la mutualité est confrontée à quelque chose qu'elle n'est pas du tout, les compagnies d'assurance. À mesure où, en principe, le principe mutualiste, c'est la solidarité, la compagnie d'assurance, on fait des sous. Bon. Sauf que actuellement, la mutualité procède à des regroupements de plus en plus gros, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de sociétés, elles sont de plus en plus importantes pour que ça fonctionne économique, et elle est guettée par le danger de ce qu'on appelle la banalisation, c'est-à-dire adopter peu à peu à son corps défendant, ou pas son corps défendant, mais peu importe, les méthodes des compagnies d'assurance. C'est-à-dire, on cible le public le plus intéressant, on a une logique marchande, alors que je pense que la protection sociale, ça c'est un débat de fond, ne peut pas avoir une logique marchande. Ne peut pas avoir une logique marchande, parce que sinon, ça fait des désastres. Le deuxième problème auquel est confrontée la mutualité, c'est l'Europe. Alors, il faut bien dire que sur ce point, tout ne vient pas de l'Europe, mais une partie vient de l'Europe, que depuis des années, ça a commencé en 89, 90, 92, les mutuelles et les coopératives se battent pour avoir un statut européen, et que pour l'instant, elles ne l'obtiennent pas. Personnellement, moi, je pense que de ce point de vue, il faut essayer... si tant est qu'on puisse faire en sorte que les choses avancent sur ce plan, dans la mesure où l'organisation de mutuelles et de coopératives à l'échelle européenne permettrait évidemment de mieux résister aux compagnies d'assurance. Ce n'est pas joué, mais c'est une question. Et moi je suis de ceux qui se battent, puisque on est très peu d'historiens de la mutualité, mais quelques-uns, pour dire que la mutualité a une histoire, des valeurs, etc., et que l'histoire doit l'aider à conserver son identité, ses valeurs, etc. Je ne dis pas que ce soit gagné, loin de là. Mais enfin bon, quand on discute avec un certain nombre de mutualistes, ça, ils le comprennent. Donc, la question est forcément ouverte. Et, vous me dites comment ça fonctionne, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez une énorme organisation qui s'appelle la Fédération nationale de mutualité française. Je passe sur une organisation, pas concurrente, mais rivale, animée par la CGT qui existait de 1960 à 2000, qui a finalement a rejoint la maison mère. Et donc, le principal porte-parole, c'est vraiment la FNMF. Elle était longtemps. Elle a eu une idéologie radicale, proche du radical socialisme à la Belle Époque. Et ensuite, après, c'est plus compliqué à la Libération, c'est plus compliqué, je reviendrai peut-être sur la Libération, disons que maintenant, la FNMF est traversée par tous ces débats. Banalisation, pas banalisation. Et là, vraiment, ça dépend du responsable que vous rencontrez, la question n'est pas tranchée. La FNMF se pose aussi la question qui n'est pas simple, comment faire fonctionner la démocratie dans ce vaste ensemble. Ça vous imagine que c'est pas simple parce que la démocratie c'est plus facile à faire fonctionner dans une petite organisation que dans un machin gigantesque. Or on a affaire à un machin gigantesque. Bon, voilà à peu près les débats qui se posent, comment dirais-je, au mouvement mutualiste, avec quand même un rappel, ça je ne l'ai pas dit, il faut quand même le dire, c'est que de tradition, la mutualité s'est longtemps voulu. C'était son terme neutre, c'est-à-dire on ne fait pas de politique. Or, évidemment, si j'en avais le temps, je pourrais vous raconter un certain nombre d'épisodes cocasses qui montrent que, compte tenu de l'importance des questions de protection sociale, je rappelle que la protection sociale, ça concerne tout le monde, sous des formes très différentes, mais ça concerne tous les Français. Bon, évidemment, les problèmes de protection sociale sont des problèmes politiques au plus haut point. Et que donc, qu'elle le veuille ou non, la mutualité a bien dû faire de la politique. Mais il n'empêche, pendant longtemps, la mutualité disait « nous sommes neutres », ça veut dire « on est du côté du pouvoir », ça, dans Napoléon, etc. Elle a fait une mutation qui n'était pas secondaire, en 67, en disant qu'elle abandonnait cette notion de neutralité pour avoir une notion plus ouverte d'indépendance. Et l'indépendance, ça lui permettait en particulier de débattre avec les syndicats. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire en très grande ligne, évidemment, sur à la fois la banalisation, l'Europe et comment ça fonctionne et l'idéologie. Sur la loi Le Chapelier, oui, bon, j'ai pas grand chose à ajouter, effectivement. Alors je le répète, ceux qui ont voté la loi Le Chapelier étaient évidemment, ne leur prêtons pas des noirs desseins, ils étaient totalement incapables de penser les conséquences qu'elle aurait. On n'a jamais vu un homme politique concevoir les conséquences de son action à un siècle. Ça se saurait. Moi, si j'avais le temps, un jour, j'aimerais faire une histoire des erreurs en politique, parce que là, vraiment, c'est un sujet absolument inépuisable, magnifique. Bon. Mais il n'empêche, vous savez, il y a des lois qui, bon, ça tombe dans l'oubli, ça n'a aucune importance. Et puis, il y a des lois qui sont importantes. Bon, et la loi Le Chapelier, c'est vraiment une loi importante. Parce que ça configure, ça jette les bases de conditions pour le mouvement social qui vont durer longtemps. Donc, effectivement, ça interdit le contrat collectif, ça isole le travailleur par rapport au patronat, et bon, ça joue très fortement. Ça joue très fortement dans une culture individualiste qui s'explique par, effectivement, l'époque, par les conceptions de l'époque, même si ça n'a pas été pensé, ça a été quand même tout à fait important. Sur la libération. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. La mutualité, pour vous donner des chiffres, en 1914, la mutualité, c'est 4,5 millions de personnes. En 1939, c'est 9 millions. C'est 10 millions à la Libération, c'est 30 millions aujourd'hui. Bon, donc à la Libération, on a un mouvement qui peut revendiquer 10 millions d'adhérents. La CGT en a 4 et la CFTC, on en a 400 000 environ, un dixième, quelque chose comme ça. Bon. Donc vous voyez, là encore, un syndicaliste n'est pas un mutualiste, mais enfin quelque chose d'énorme. Bon. Mais dans une certaine mesure, c'est un colosse au pied d'argile, parce que ce mouvement énorme, il n'a pas de relais politique. Dans la mesure où la mutualité est dépassée, et même s'il y a eu des mutualistes, quelques-uns qui ont été dans la résistance, ils sont incapables d'eux. Il y a une anecdote, je ne résiste pas au plaisir de vous la raconter. La sécurité sociale a été créée, entre autres, bon, le père de la sécurité sociale, on parle toujours de Pierre Larocque. Pierre Larocque était un peu le symbole de l'État qui a créé la sécurité sociale. Bon, vous imaginez qu'une réforme de cette importance, on a évidemment consulté tout le monde. Bon, donc les syndicalistes, les corps constitués, le patronat, etc. Et donc la mutualité. Et Pierre Larocque écrit dans ses souvenirs, « J'ai donc rencontré l'état-major de la mutualité à la Libération, pour leur parler, leur dire, la sécurité sociale, etc. Et j'ai été frappé, enfin il ne le dit pas dans ces termes, mais enfin c'est comme ça que ça veut dire, c'était tous une bande de vieux schnocks complètement, mais complètement dépassés par les événements. 80 ans, je n'ai rien contre, mais je veux dire complètement dépassés. Alors, bon, et cette mutualité, elle est forte, c'est un mouvement qui est fort, qui a des ressources, etc., mais qui, sur le plan politique, est faible à la Libération. Alors que le syndicalisme est fort parce que, bon, à ce moment-là, ça ne va pas durer, mais la gauche est forte. La gauche est forte parce que, n'oubliez pas qu'à la Libération, le Parti communiste est au sommet de sa puissance, avec ses 680 000 adhérents. La SFIO est moins forte, mais enfin quand même très forte. Donc ça ne va pas durer, mais la gauche est très forte, et elle pousse les syndicats. Au contraire, la mutualité, elle n'a pas de relais politique. Si elle en avait, ce serait peut-être du côté du parti radical qui est complètement en perte de vitesse, plus encore à droite. Donc elle ne peut pas faire grand-chose. Elle ne peut pas faire grand-chose. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on va se rendre compte. Alors maintenant, sur la sécurité sociale, effectivement, on a. Bon, quand on voit la sécurité sociale, d'abord, je n'ai pas eu le temps d'en parler, je n'aurai pas le temps de détailler, mais il ne faut pas croire qu'en France, tout a commencé avec la sécurité sociale. C'est une idée totalement fausse. C'est une idée totalement fausse, tout simplement parce qu'il existait avant les assurances sociales qui avaient été mises en place en 1930, qui couvraient la retraite et qui couvraient la maladie, et qui couvraient quelques 10 millions de personnes. Donc, la sécurité sociale s'est inscrite dans le sillage, dans la continuité des assurances sociales, mais on n'a pas fait quelque chose, une belle réforme comme ça, en partant de rien. Il y avait un tas de choses, il y avait les assurances sociales, et il y avait 10 millions de mutualistes. Ce qui est vrai, c'est que, bon, on n'a pas fait autant qu'on aurait voulu, mais d'abord pour une raison très simple, c'est que le pays sortait de la guerre. Et que, bon, ces réformes coûtent cher, le pays était à reconstruire, on s'est d'ailleurs demandé s'il fallait tout de suite créer la sécurité sociale, est-ce qu'il fallait pas à travailler la reconstruction, non, on va faire la sécurité sociale, mais on n'a pas pu la faire aussi vaste qu'on voudrait. Par ailleurs, un certain nombre de professions ont refusé de la rejoindre, les petits commerçants et les paysans notamment. Donc, le beau projet qu'on avait de sécurité sociale universelle, universaliste pour tous les Français, ça n'a pas fonctionné au départ. On n'avait pas le moyen de rembourser à 100%. Ça n'a pas été une volonté politique, c'était aussi beaucoup les circonstances. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte que, bon, d'abord, on ne pouvait pas faire tant qu'on voulait. Et que d'un autre côté, bon, ben, on est allé aussi chercher les appuis du côté où ils étaient, donc du côté de la mutualité, qui, avec ses millions d'adhérents, avec ses ressources, avec ses bons gestionnaires, était quand même quelqu'un qui pouvait aider. Et cette réintroduction s'est faite en particulier à travers les mutuelles de fonctionnaires. Donc on voit que la mutualité a rapidement compris que ça ne servait à rien de s'opposer frontalement à la sécurité sociale. Bon, donc elle s'est définie de façon complémentaire à la sécurité sociale. Elle a compris que c'était dans l'intérêt, bon, de toute façon qu'elle n'avait pas le choix, qu'il fallait s'inscrire dans cette affaire. Et à partir de là, elle s'est peu à peu adaptée à la sécurité sociale. Ça a pris une petite dizaine d'années, mais enfin bon, et elle s'en est tout à fait, comment dirais-je, tout à fait bien sortie. Voilà à peu près. Sur 1831, l'école des mutuelles. Alors ça, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est, parce que ça, je ne connais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on assiste à... Vous savez, on assiste à un foisonnement, dès cette époque, des groupements. Alors, il faut aussi bien voir qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est qu'un parti, un syndicat, une mutuelle, une coopérative. À l'époque, ces mouvements, ils ne commencent, ils ne font que leur premier pas. Donc il ne faut pas croire qu'on ait des idées très précises. Ça peut être un peu une mutuelle, un peu une coopérative, ça peut être des choses extrêmement bizarres, extrêmement diverses. Et il faut, j'ajoute que dans ces années-là, le mouvement coopératif fait aussi ses premiers pas. Le mouvement coopératif fait ses premiers pas pour une raison simple, c'est que le développement de la révolution industrielle, bon, qui se fait, je l'ai dit, dans des conditions effroyables, pose des problèmes immédiats à ceux qui en sont les principales victimes, le prolétariat, et que le problème numéro un, c'est d'abord l'alimentation. Le problème quotidien numéro un, c'est d'abord d'arriver à trouver de l'alimentation. Les premières coopératives vont se construire pour répondre à ce besoin, d'ailleurs dans une diversité étonnante, parce que vous avez des coopératives catholiques, socialistes, francs-maçons, enfin bon, tout ça là. Bon. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est pour cette école mutuelle, mais bon, si vous voyez le document, ça je pourrais peut-être en savoir plus. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui se développent à Paris. Je vous dis, dans un capharnaüm total, mais c'est vraiment le mot. On sait même qu'il y a eu un premier groupement à peu près dans ces années-là à Paris, un premier groupement des mutualistes parisiens. Bon, je regarde, on ne sait pas, mais on sait qu'il existait. Est-ce que votre école mutuelle en fait partie? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Bon, à voir aussi, peut-être aussi, parce que c'est aussi les débuts du socialisme utopique, et je le répète, tout ça se fait dans une énorme confusion. Donc, je ne peux pas vous en dire un peu plus. Qui se passe
dans les villages français, dans beaucoup de petites villes.
Oui, alors. Non, pas à cette époque. Non, alors, je dirais, c'est vrai, mais ensuite. C'est vrai, alors ça, je n'en ai pas parlé. Je ne suis pas sûr que ce soit vendu 131. Je suis certain que ça l'est à partir des années 1880. Ou alors là, ça c'est très important pour connaître l'histoire de la mutualité. Il y a effectivement un développement de la mutualité dans tout le pays qui est très très fort. Parce que la mutualité se rapproche des républicains, des francs-maçons, bientôt du parti radical, bientôt des instituteurs, et que tout ça, jusqu'à 1914, va marcher admirablement. Et que, bon, le parti radical est constitué autour de Léon Bourgeois en 1901, autour du solidarisme. Là, ça, c'est certain pour cette époque. Pour 1831, je demande à voir. N'oublions pas que la première grande loi scolaire, avant les lois Ferry, c'est la loi Guizot en 1833. On n'est donc qu'au début de quelque chose. Mais, j'ajoute un dernier point, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur l'histoire de la mutualité, donc je suis quand même prudent là-dessus. Sur 1914, et après je reprends les questions, sur 1914, je ne suis pas allé voir les comptes bancaires de la CGT, mais je ne pense d'ailleurs que beaucoup d'historiens soient allés les voir. D'abord, pour une raison très simple, c'est qu'ils étaient très faibles. Ça, en tout cas, ça là-dessus, je ne prends aucun risque en le disant. Cela dit, on a... Alors bon, moi, je n'ai pas travaillé directement là-dessus, mais bon, on a énormément regardé ça. Je pense notamment aux travaux de Jean-Jacques Becker, mais je pourrais en citer bien d'autres. Je crois que la raison principale qui explique ce retournement, c'est le nationalisme qui gagne tout le pays. Alors moi, j'ai toujours envie, dans ces cas-là, de vous renvoyer à un beau roman qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle « Les Thibauts ». « Les Thibauts » de Roger Martin du Gard. Je ne sais pas si vous l'avez lu. « Les Thibauts », c'est l'histoire d'une grande famille, Toubib, qui a deux fils. Ça se passe avant 1914. Et bon, le père finit par mourir, et un fils se fait Toubib, et l'autre se fait révolutionnaire. Bon, il va vivre à Genève, parce que Genève, c'est le lieu où se retrouvent les révolutionnaires. Bon. Et Roger Martin du Gard, à la fin de son roman, presque à la fin de son roman, retrace l'atmosphère de juin-juillet 1914. Et là, moi je suis de ceux qui pensent qu'un beau roman, ça explique beaucoup de choses en histoire, parce que ça permet de comprendre, de sentir un tas de choses. Et pour comprendre ce qui se passe, ce retournement qui est, je le répète, quelque chose d'étonnant, rationnellement, qui n'est pas compréhensible. Bon, eh ben, faut sentir l'atmosphère de l'époque. Lisez les Thibauts, et à la fin des Thibauts, où il montre que, effectivement, l'internationale, la deuxième internationale, les partis socialistes de France, d'Allemagne, etc., sont complètement dépassés par les événements, totalement dépassés par les événements, qu'ils ne maîtrisent plus rien, que la machine s'emballe, et que je crois que c'est ça fondamentalement qui explique cela. Alors après, on essaye d'expliquer, je crois que la raison principale, c'est que la CGT, n'a pas été seule, a totalement sous-estimé le nationalisme, non seulement de la classe ouvrière, mais de l'ensemble de la société. Pour moi, c'est l'explication principale. Mais c'est pas le fait qu'elle ait pu être achetée, etc. Même si, à la limite, vous pouvez dire que tel ou tel militant ou responsable a été soudoyé, ce qui est bien possible, c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est d'abord le nationalisme.
Cela dit, il y a des débats dès 1912 dans l'équipe dirigeante de la CGT sur le slogan « guerre à la guerre », etc. Parce que il y avait eu une journée d'action contre la guerre qui avait été très peu suivie. Et même un appel à la grève générale contre la guerre en 1913 qui n'avait pas été suivi. Et le débat existe. Enfin, bon, il y a Becker et puis aussi, comment il s'appelle, l'éditorialiste du Nouvel Obs, que tout le monde connaît.
Guillard
aussi, qui a travaillé là-dessus.
Du temps où il travaillait.
Du temps où il travaillait. C'était un historien de qualité. Oui. Qui montre bien que déjà, il y avait un débat. cette idée qu'il y avait un décalage entre le mot d'ordre de la CGT et la façon dont les ouvriers pouvaient s'approprier ce mot d'ordre. Et d'ailleurs, la façon même de présenter le mot d'ordre, ce qui était, si un appel à la guerre, la CGT appellera à la grève générale, en 1912, on change la formulation. C'est la CGT participera à la grève générale qui, inévitablement, démarrera. Et la CGT, déjà, ne dit plus qu'elle appellera toute seule à la grève générale. Sur l'approche de la guerre, Becker, il est plus prudent sur l'emballement nationaliste, parce qu'il montre aussi que au début de l'année 14, il y a des appels, des journées au Pré-Saint-Gervais sur la paix, appelées par l'humanité, par le journal et par les syndicats. Et là, on commence à voir un rapprochement entre la CGT et le Parti Socialiste, parce que c'est ça, fondamentalement. La CGT qui campe encore dans la posture de l'indépendance, voire du combat même contre la SFIO, après 1912, les rapprochements sont manifestes, parce qu'aussi, on voit bien le danger de la guerre qui monte et l'assurance qu'ils avaient, parce qu'il y a eu des voyages qui ont été rapportés en Allemagne, où on savait très bien que les syndicats allemands n'étaient pas sur la position d'appeler à la grève générale en cas de guerre, même lorsque l'international socialiste finit par adopter l'amendement Kerhardy-Vaillant, qui prévoit, qui reprend à son compte le mot d'ordre qui vient des syndicats, qui serait en cas le mot d'ordre de grève générale contre la guerre. Mais le parti allemand qui le vote au sein de l'international socialiste, les syndicats allemands disent très bien qu'ils ne mettront pas en œuvre cet appel à la grève générale et qu'ils n'appelleraient jamais à une grève générale. Il faut voir que la guerre de 14, quand elle survient, c'est une guerre défensive pour tout le monde. Et les Allemands se défendent, les Français se défendent, tout le monde se défend. Ce qui est assez extraordinaire, mais c'est perçu comme ça à l'époque. Et donc les syndicats et les partis ouvriers participent à l'effort de guerre nationale parce que c'est une guerre défensive.
Et j'ajoute ce qui permet de mieux comprendre, pour un certain nombre de militants français, c'est la défense des idéaux de la Révolution française contre l'Empire allemand. Contre l'Empire. Donc, la guerre qui va permettre la Révolution, l'instauration de la République, etc.
Il y a des débats très vifs là-dessus.
Prends quelqu'un comme Vaillant, dont l'internationalisme est indiscutable. Et Vaillant, lui, la guerre, c'est la poursuite de la Révolution française. Enfin, je schématise. Donc, c'est ça qui explique. Absolument.
En général, c'est pas évident de résister et de se mettre en grève générale.
Si on avait appelé à la grève générale, on aurait été lynché, non pas par la police, mais par les ouvriers.
Et la scène se passe au comité confédéral de la CGT en septembre, j'ai dit bien, 1914. Le comité confédéral, c'est les responsables nationaux, union départementale, fédération. Il y a un militant, il représente l'Union du Gard, qui vote contre la guerre, qui s'exprime contre la guerre. Il s'appelle Pierre Monat. Et bon, il voit tous ses camarades dire le contraire, et il se demande à un proche, mais est-ce que c'est moi qui suis devenu fou, ou est-ce que c'est vrai? Tellement, c'est un renversement total de tout ce qu'il a vécu. Et au départ, les opposants à la guerre, ça c'est des choses qu'on connaît bien, enfin des milieux qu'on connaît bien, ceux qui ont travaillé, Rosmer et d'autres, etc., sont un tout petit nombre. Alors après, ça va changer. Mais au départ, même chose en Allemagne.
Naturellement.
L'annonce du ralliement de la CGT à la guerre, c'est Léon Jouot sur la tombe de l'enterrement de Jaurès. C'est lui qui fait le discours.
Oui, tout à fait.
Non, mais moi, je n'ai pas compris ce que c'était que mutualité. Je suis peut-être idiote, mais je ne comprends pas du tout, parce que à l'heure actuelle, c'est quoi? Vous avez cité la MGN, tout ça, c'est des sociétés privées, ou quoi?
Ah non! Non. Alors, la mutualité, au départ, ça se crée sur la base de toutes petites sociétés. Au départ, la mutualité, les sociétés de secours mutuel se créent sur un principe simple. Les gens se réunissent pour gérer leurs propres affaires et prendre en charge la maladie. On met une somme commune dans un pot commun pour gérer la maladie, ultérieurement les retraites. Et en principe, chacun a droit de dire, au sein de cette société, je veux dire, les débats fonctionnent de façon démocratique et chacun a le droit de gérer. Bon, c'est ça. Donc, c'est tout à fait différent d'un système dans lequel, comme la sécurité sociale, vous avez un salaire, vous êtes affilié à la sécurité sociale. Là, adhérer à une société de secours mutuel, c'est faire un acte d'adhésion libre et volontaire. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Et au départ, la mutualité, les sociétés de secours mutuel, se sont construites sur cet acte d'adhésion libre et volontaire.
Est-ce que c'est encore comme ça ou ça n'est plus du tout comme ça?
Ça dépend. En principe, je peux vous dire que jeune fonctionnaire, quand j'étais reçu dans une école, m'a dit tu dois adhérer à l'AMGEN. Bon, très bien, j'ai adhéré à l'AMGEN. J'ai jamais mis les pieds dans une assemblée générale, etc. Mais bon, on peut ne pas adhérer à une mutuelle. On peut ne pas adhérer. C'est-à-dire que, en principe, je dis bien en principe, c'est toujours un acte libre et volontaire. Et la démarche mutualiste se caractérise justement par cette action libre et volontaire, vous faites ou vous ne faites pas.
Alors pourquoi ils font de la publicité comme la MAF, tout ça?
Alors ça, c'est
pas pour avoir des bénéfices, moi, quelque chose qui me cherche.
Il y a d'autres questions. Non,
ce qu'on disait tout à l'heure, les statuts des assurances et la législation européenne, c'est ça qui dévie.
Pourquoi ils font de la publicité? Tout simplement pour mieux se faire connaître. Bon, ça, on peut dire que c'est bien ou c'est pas bien, ça, j'en sais rien. Mais en principe, une société, une compagnie d'assurance, elle fait de l'argent, elle fait des bénéfices, point final. Bon, une société mutualiste ne fait pas de bénéfices, c'est-à-dire que vous cotisez une société mutualiste, vous recevez des prestations en cas de maladie ou en cas de retraite. Si la société mutualiste a, un surplus, elle doit le réinvestir dans des œuvres sociales, codifiées, légiférées, etc., etc. Donc la logique mutuelle, je dis bien en principe, n'est pas de faire du bénéfice. C'est une forme d'organisation de prise en charge des problèmes de maladie et de retraite, et de protection sociale, de façon collective. Voilà à peu près ce que ça...
Ça se voit dans les opérations commerciales. On ne peut pas racheter une mutuelle.
Non.
On rachète une compagnie d'assurance, mais on ne peut pas racheter une mutuelle pour une raison simple, c'est l'appréciation de l'encours. L'encours, c'est-à-dire la somme qui sert de la trésorerie courante, quoi, dans le moment du passage entre la cotisation et la prestation. Cet encours, il appartient au sociétaire dans une mutualité. Il appartient pas à l'entreprise. La mutuelle n'est pas propriétaire de son encours, elle est dépositaire des cotisations des sociétaires. Et donc personne ne peut racheter ça, ça n'appartient qu'aux sociétaires. Donc c'est, en termes de droit commercial, c'est une très très grande différence. Après, dans le fonctionnement au jour le jour des entités, la différence entre être client à une assurance et être sociétaire à une mutuelle... Bon, il faut la chercher.
Il faut de plus en plus la chercher.
Ça a un peu perdu cette idée-là. Ça renvoie à la question sur l'idéologie, parce que c'est une question intéressante, parce que ce que tu nous as montré là au départ, c'est qu'au fond, la FNME, enfin la mutualité, a une remarquable capacité d'adaptation à tous les régimes politiques.
Ah, phénoménal.
Elle sort de l'Empire, les notables deviennent notables de la Troisième République.
Complètement.
Tous les régimes, ça lui va, y compris Vichy.
Y compris.
Et après, bon, faut un petit peu de temps, mais malgré tout, c'est quoi le cœur, quoi? C'est quoi la référence? Est-ce que là-dedans, on n'a pas une espèce de mixte entre le philanthropisme classique, hérité du catholicisme, matinée de rationalisme des Lumières à la fin du XIXe siècle, bon, ce qui est exprimé dans le solidarisme, le rôle de la libre pensée, du radicalisme là-dedans? Et est-ce que c'est quoi le fil conducteur de tout ça? Aujourd'hui, on a l'impression que ce fil conducteur, il a complètement disparu. Et pour aller dans le sens, là, aujourd'hui, on voit bien avec l'histoire de l'Europe, mais est-ce que d'une certaine manière, on ne peut pas dire que le fait que la mutuelle se soit très vite reconvertie à la sécurité sociale, je crois que tu as bien montré l'étape, la sécurité sociale, on met en place un système, mais il n'est pas achevé quand il se met en place. L'idée, c'est de l'étendre.
Oui.
La preuve aussi, c'était dans propos, tu ne l'as pas cité, mais les régimes spéciaux demeurent.
Bien entendu,
parce que les régimes spéciaux demeurent. Non, mais on ne peut pas parler de tout. Les régimes spéciaux demeurent, mais dans l'idée de rejoindre la Sécu lorsque la couverture va s'améliorer. Elle ne s'améliorera jamais, les régimes spéciaux vont rester. Et pourquoi elle ne s'améliorera jamais? D'une certaine manière, c'est parce que justement, les mutuelles ont fait leur niche dans les trous de la sécurité sociale. On le voit bien aujourd'hui, puisque avec tous les déremboursements et tout, on vous dit, mais il n'y a pas de problème, la protection sociale ne bouge pas, c'est plus la Sécu, mais c'est votre mutuelle. Mais,
sauf que...
Alors, sauf que, bon, c'est cher, que ça met...
Et on sort le prélèvement obligatoire.
Voilà. Bien sûr.
Donc, est-ce que le jugement a posteriori, quand même, ne peut pas être un petit peu sévère sur le rôle qu'au final ont joué les mutuelles dans, au fond, une sorte de blocage du développement du système de sécurité sociale? Alors, c'est pas ce qui serait devenu sans les mutuelles, mais on peut se poser la question.
Alors, ça, j'en sais rien. Ce que tu dis sur l'adaptation, alors là, absolument. Ça, c'est vraiment le mot-clé, l'adaptation. Il y a eu longtemps une idéologie, je dirais, proche du radical socialisme. Il y a une lente, après la guerre, parce que là aussi je ne peux pas parler de tout, après la deuxième guerre, les mutuelles de fonctionnaires, c'est quand même quelque chose qui rapproche du monde syndical. Ça, c'est tout à fait net. Et moi, ce qui me semble, c'est que depuis, peut-être depuis les années 80, il y a une déperdition. Il y a l'irruption des compagnies d'assurance sur le terrain de la protection sociale. D'ailleurs, ça commence en 70 et maintenant, vous discutez avec un mutualiste, ça l'inquiète énormément. Et il y a effectivement le problème de la banalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on veut faire aussi bien que les concurrents, donc on fait comme les compagnies d'assurance, donc on abandonne de plus en plus de la solidarité, on est de plus en plus dans une logique de rentabilité. C'est pas joué, mais effectivement, ça peut l'être, comment dirais-je, de plus en plus. C'est des évolutions qui seront longues, hein. C'est des évolutions qui seront longues, il faut regarder ça en détail, il faut voir quel public on cible, il faut, bon, faut voir tout ça. Mais effectivement, il y a cette logique commerciale, et il y a surtout le fait que, quel relais politique? Quel relais politique? Ça, c'est quand même, c'est aussi...
Il y a le patronat aussi.
Et il y a aussi le patronat. Après, et j'ai pas eu le temps de parler du patronat, sur lequel il y a aussi beaucoup à dire. Absolument,
ça, c'est
absolument.
Le patronat. Oui, dans toute la protection sociale complémentaire,
l'entrée
dans le
système commercial,
c'est
l'échec de la
CAMIF,
ou des choses comme ça.
Il y a ça en plus. L'échec de la CAMIF.
L'entrée dans le système commercial.
Absolument. Les déconvenues de la mutualité parisienne, avec l'immeuble de la mutualité. Oui, tout ça, c'est des choses très, très inquiétantes. Effectivement, on n'a pas parlé du patronat. Bah, vous savez que la maison de la mutualité, je pense qu'un certain nombre d'entre vous. Commencé par moi-même, sont allés dans des meetings. Bon, ben, la maison de la mutualité, c'est un lieu historique, c'est un lieu qui a été construit par la mutualité à Paris, qui est une puissance en 1930. Bon, ben, il se trouve que la mutualité à Paris, parisienne et maintenant francilienne, qui était vraiment quelque chose de très, très important, connaît de grandes difficultés. Je crois qu'elle avait été obligée de vendre l'immeuble. Donc, c'est un peu comme l'histoire de la CAMIF, et c'est pas bon.
Il y a quelques années, ils avaient fait un grand raout, un grand trou sur le centenaire.
Tout à fait. Tout à fait. Absolument.
Avec ce monument qui est emblématique.
Tout à fait.
Parce que pousser général, au système général, avec le mutualisme, ça fait penser un peu à Proudhon, au fédéralisme associatif, de mutualité.
Oui.
En fait, c'est une sorte de liberté.
Ça allait dans ce sens.
Ça pourrait être un système libertaire tout à fait viable.
Oui, ça pourrait. D'ailleurs, certains mutualistes s'en sont réclamés. Bon, il y aurait beaucoup à dire parce que, quand même, autant que Proudhon écrit, c'est pas vraiment du tout l'orientation que prend la mutualité. Mais effectivement, la mutualité peut apparaître comme un mouvement qui ne se veut pas décentraliser, où chaque société vit comme elle le veut son existence. C'est quand même de moins en moins vrai dans la mesure où actuellement on est dans une période de regroupement à marche forcée. C'est-à-dire que le nombre de sociétés ne cesse de diminuer, elles deviennent de plus en plus grosses. Absolument.
Plus la mutualité n'est pas libre, elle doit payer des ACMU complémentaires, elle paye des taxes spéciales, je crois.
Oui.
Donc ce n'est plus l'essence de la mutualité.
Ça. Oui, mais enfin ça ne l'a jamais été. Enfin, elle a toujours été soumise à une législation extrêmement stricte. Je ne vous ai pas parlé des différents codes de la mutualité parce que, je n'allais pas encore à la chose, mais...
La Banque Populaire, C'est une mutualité. C'est une mutuelle ou c'en est pas une?
Non, coopérative. Coopérative.
Bon. Ouais, ça, c'est...
Alors, une
on
autre
pourra
fois.
Faire une autre fois, sur le mouvement coopératif, le mouvement parce que c'est passionnant.
Oui, absolument.
Bon, ben, on te retient sur...
Pas tout de suite, mais...
Pas tout de suite. Mais oui, les coopératives.
Ouais, les coopératives. Alors là, effectivement, on est dans le milieu coopératif, qui n'est pas très éloigné, mais qui est quand même distinct.